France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Près de 150 000 personnes à Londres pour dire non à l'immigration. La plus grande manifestation de ce type dans l'histoire britannique et des portraits de Charlie Kirk brandis par la foule ou comment cet assassinat d'un Trumpiste a traversé l'Atlantique immédiatement. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est avec Jean-Yves Camus de l'Observatoire des radicalités politiques que nous en parlerons. Pourquoi la confiance est-elle rompue entre Donald Trump et les pays du Golfe? Louise Baudet l'expliquera en remettant le monde à l'endroit. Une école de 5 élèves, c'est en Corée du Sud, le pays à la démographie la plus basse du monde, dans le reportage d'Un jour dans le monde.
La loi coréenne oblige chaque commune à avoir une école primaire. Détruire l'école, c'est tuer le village. Personne ne voudra revenir ici s'il n'y a pas d'école.
À découvrir autour de 18h42, pourquoi l'Afrique du Sud rouvre-t-elle l'enquête sur Steve Biko? 48 ans après sa mort, Guillaume Audat vous le raconte sous les radars. Et puis Cyril Sauvageau fête l'anniversaire d'un label passé par la Suisse, le Maghreb et ailleurs. Ce sera la BO du monde juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Allons-y.
The left is the party of murder. Violence is coming to you. You either fight back or you die. You either fight back or you die.
La gauche est le parti des tueurs. Que vous choisissiez ou non la violence viendra à vous. Soit vous ripostez, soit vous mourrez. C'est Elon Musk qui parle samedi dans une intervention vidéo dans cette manifestation qui a lieu à Londres. Bonsoir Jean-Yves Camus.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, vous êtes co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. On a évidemment choisi Elon Musk qui intervient ici parce qu'on est au surlendemain de l'assassinat de l'activiste trumpiste Charlie Kirk et que ça a tout changé. Les mots ont un sens quand même, Jean-Yves Camus. Riposter ou mourir? Est-ce que cet assassinat a fait passer cette droite-là qui a manifesté dans une autre dimension?
Cet assassinat a effectivement déclenché au sein d'une partie de la mouvance MAGA, donc de la mouvance trumpiste, c'est certain en tout cas, une volonté de revanche. Je ne sais pas jusqu'où cela ira, mais il est très clair qu'il y a aujourd'hui, au sein de cette mouvance, des électeurs, de simples électeurs, des responsables qui incriminent toute la gauche. Mmh. Toute la gauche, et la gauche aux États-Unis, c'est une notion assez relative. Hein. Ça part, on va dire, du Parti démocrate qui s'est opposé à Donald Trump, jusqu'à des petits bandes d'extrême gauche. Et il y a effectivement une volonté de déclarer la guerre. Au départ, c'était uniquement une guerre culturelle. Mmh. Chez Elon Musk, ça va plus loin. À tous ceux qui s'opposent à la présidence impériale de Trump. Ceci étant, il faut le redire, et c'est Bernie Sanders d'ailleurs qui l'a dit le plus clairement, l'assassinat de Charlie Kirk est inadmissible d'un point de vue moral, d'un point de vue politique, parce que cet homme pratiquait le débat. On peut détester ses idées, mais il allait sur les campus et il était possible de venir l'écouter, et son grand truc, c'était précisément d'attirer des étudiants d'opinion opposée à la sienne, à qui il lançait un défi. Mmh. Prouvez-moi que j'ai tort. Mmh. Donc, à partir du moment où les choses se passent comme ça, il faut laisser la libre expression régner sur les campus.
Alors on va
et non pas tirer sur les gens.
On va y venir, effectivement, à la liberté d'expression, en effet, et ce qu'ils sont en train d'en faire en ce moment. Mais vous l'avez dit, on a l'impression qu'on cherche la confrontation, en fait. On cherche la mèche à allumer, et c'est bien ce qu'on entend dans le discours d'Elon Musk. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu, y compris à gauche, des gens pour se féliciter de cet assassinat, mais ce sont des individus, en fait. Là où c'est quand même très frappant, c'est que du côté du mouvement MAGA, du côté du mouvement conservateur ultra-américain, ce ne sont pas des gens lambda sur un réseau social, ce sont les décideurs qui ont mis cette narrative sur le tapis. Ce qui change quand même pas mal de choses, non, Jean-Yves Camus?
Alors oui, ça change effectivement pas mal de choses, mais tous les décideurs, fort heureusement, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Le gouverneur républicain de l'Utah, là où s'est passé le meurtre de Charlie Kirk, l'Utah qui est un État très profondément conservateur, où les Mormons sont majoritaires. Le gouverneur a donc eu des mots à la fois très forts en disant qu'il était partisan d'appliquer la peine capitale à celui qui n'est encore qu'un suspect, mais en même temps en disant par pitié arrêtez, il y a eu des meurtres d'élus démocrates dans le Minnesota au début de l'année, il y a maintenant l'assassinat de Charlie Kirk qui avait eu bien avant l'assaut donné au Capitole le 6 janvier. Il faut arrêter, il faut recommencer à se parler, recommencer à débattre et non pas régler le problème à coups de fusil. Mais c'est vrai que Donald Trump a eu des mots très durs et que d'abord c'est Donald Trump lui-même qui a annoncé la mort de Charlie Kirk. Ça c'est quand même un indice de la proximité entre les deux hommes. Et puis le vice-président Vance s'est déplacé jusqu'à Salt Lake City pour ramener le corps de Charlie Kirk jusqu'en Arizona.
Et en faire aujourd'hui une icône, les obsèques vont avoir lieu dans un stade, ça va être quelque chose d'extrêmement important aux États-Unis. Jean-Yves Camus, Tommy Robinson, à Londres cette fois, dans son discours, au milieu de cette marche donc, de 150 000 personnes contre l'immigration à Londres, il dit « Marchez pour votre pays, marchez pour la liberté, marchez pour Charlie Kirk ». Et je me demandais si ça vous avait étonné au fond que Charlie Kirk ait passé l'Atlantique aussi facilement. Vous nous l'avez rappelé, l'assassinat politique, hélas, n'est pas inédit aux États-Unis, mais on ne s'y identifie pas en Europe. Cette fois, il y a une identification à cet assassinat. Est-ce que c'est la première fois ?
C'est sans doute la première fois que cela prend une telle ampleur, mais les choses ont changé ces dernières années, avec d'abord la prise de contrôle du principal réseau social, en l'occurrence X, par Elon Musk. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces algorithmes ont bien changé depuis Twitter et que désormais, ce sont les contenus proches des droites radicales qui sont mis en avant. Ensuite, parce que tout naturellement, quand le président des États-Unis d'Amérique, donc de la principale puissance du monde, tient le discours qu'il tient et a les idées qu'il laisse propager jusqu'en Europe et ailleurs, ça n'a pas le même écho que quand c'est Viktor Orban. Viktor Orban déjà a un écho en Europe. Et pas des moindres. Mais quand c'est Donald Trump, il est bien évident qu'on passe un cap beaucoup, beaucoup plus important. Et puis, il y a peut-être quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, c'est que ces 10 dernières années, en gros, beaucoup de formations appartenant aux droites radicales avaient joué le jeu de la modération. Quête de respectabilité, Fratelli d'Italia qui vote l'investiture de Madame von der Leyen et qui a un commissaire européen aujourd'hui qui essaye de se fondre dans le moule. Le Rassemblement national qui explique que l'ère de Jean-Marie Le Pen est définitivement close. Donc on avait l'impression plutôt d'un recentrage. Sauf chez quelques formations, mais grosso modo d'un recentrage. Et là, on a l'impression qu'il y a une aile des droites radicales, pas seulement aux États-Unis, c'est vrai aussi de ce qui se passe en Argentine avec le président Milei, avec M. Bolsonaro quand il n'était pas encore condamné au Brésil, pour qui la règle de droit n'a vraiment plus d'importance, pour qui l'adversaire n'est plus quelqu'un avec qui on dialogue au besoin en s'écharpant, mais quelqu'un contre qui on peut utiliser tous les moyens, y compris dans le cas brésilien, la tentative de coup d'État. Bref, que c'est une guerre à mort.
C'est l'ennemi, en fait. Désormais, ça rejoint ce que vous disiez, Jean-Yves Camus, au début de cette conversation, où c'est pas des individus, c'est la gauche. Et là, en l'occurrence, on voit bien jusqu'à quel point, y compris dans la narrative, y compris dans les mots, c'est la gauche contre les magas, en fait. Et peu importe tout ce qu'il peut y avoir au milieu, et c'est ça qui fonctionne. Mais je m'étonne toujours que ça passe jusqu'à l'Atlantique, que ça passe l'Atlantique, et qu'on puisse s'accaparer ce discours-là. Et vous l'avez dit, ce sont les plus extrêmes qu'on a vus. Tommy Robinson, il est même à la droite de Nigel Farage. Chez nous, c'est Éric Zemmour qu'on a vu, c'est pas le RN, c'est Éric Zemmour. Donc, on a l'impression que ce discours-là, c'est une autre droite qui s'en est emparée aujourd'hui, et qui a trouvé en Charlie Kirk une espèce de ligne de convergence.
Oui, alors peut-être sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire qu'il faudrait voir ce qu'il deviendra de la figure de Charlie Kirk dans les mois et les années à venir, si l'émotion, en tout cas en Europe, lui laisse toujours le même statut d'icône. Je pense que pendant un certain nombre d'années, ce sera le cas. Pour bien poser les choses, Tommy Robinson, il est à la droite de Nigel Farage, qui est en gros le trumpiste britannique dont le parti réforme est en train de mordre considérablement sur le parti conservateur. Tommy Robinson, c'est un ancien hooligan.
Qui a fait de la prison même.
La violence de rue. Il a été condamné, il a été multicondamné. Il a fait un bref séjour derrière les barreaux. Mais on est véritablement dans une manifestation d'abord qui effectivement est la plus importante que la Grande-Bretagne ait connue, en tout cas pour cette partie du spectre politique depuis, je crois bien depuis 1945, et qui est dirigée par quelqu'un qui encore une fois est un agitateur de rue, mais 110 000 personnes. C'est pas les effectifs du petit mouvement activiste de Monsieur Robinson. Donc ça veut dire que dans la rue, il y avait des gens, des gens qui votent pour d'autres partis, soit pour réforme, soit pour d'autres, ou des gens qui ne votent pas et qui, sous couvert d'un slogan de manifestation qui était pour la liberté d'expression, vous disent en fait, la liberté d'expression qu'on veut avoir, c'est de réhabiliter le racisme et de dire non pas il faut limiter l'immigration, non pas il faut fermer la porte, mais deport them now, c'est-à-dire en fait remigrez-les. Renvoyez-les maintenant.
Vous l'avez évoqué, effectivement, Jean-Yves Camus, la liberté d'expression était au cœur de cette manifestation. La liberté d'expression est aussi aux États-Unis. Ce qu'on fait de Charlie Kirk, c'est un martyr de la liberté d'expression. Moi, j'aimerais comprendre à quel moment, au fond, cette droite radicale a réussi à faire une OPA sur la liberté d'expression. Comme si, au fond, ça n'appartenait qu'à elle, désormais. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, aussi des erreurs qui ont été commises dans l'autre camp, du côté de la gauche, pour que aujourd'hui cette droite radicale puisse s'en emparer de cette manière?
Alors, première précision, la liberté d'expression telle qu'elle est protégée par le premier amendement de la Constitution américaine est absolue. Absolue. C'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit de manifester en vous grimant en Adolf Hitler, c'est arrivé.
Absolument.
Avec des drapeaux à croix gammée que vous déployez dans les rues et en disant qu'il ne s'est jamais rien passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, corollaire, peu connu, si vous commettez un meurtre et que ce meurtre est motivé par des idées politiques, alors à ce moment-là, vous risquez de terminer sur la chaise électrique. Que vous soyez l'auteur du meurtre de Charlie Kirk, ou que vous soyez quelqu'un qui est un néo-nazi américain qui a tué quelqu'un en raison de sa couleur de peau. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est quelque chose qui rassemble, je crois, 99,99% de la population qui considère effectivement que nos lois contre le racisme et l'antisémitisme sont des lois liberticides. C'est vraiment comme ça que c'est vu. Et qu'on doit pouvoir tout dire, ce qui ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Le problème, c'est que dernièrement, le curseur s'est déplacé et que de pouvoir tout dire, ce qui est une conception de la liberté d'expression, on est passé aux États-Unis à pouvoir tout faire. Considérez l'épisode du 6 janvier, lorsque Donald Trump, il n'a pas donné l'ordre à ses partisans de marcher sur le Capitole, mais enfin, il ne leur a pas dit non plus qu'en aucun cas il ne fallait le faire parce que ça s'apparentait à une tentative de coup d'État.
J'ai une dernière question parce que l'heure tourne. Monsieur Camus, la foule de Londres n'était pas faite que de vieux nostalgiques, celle de Charlie Kirk encore moins. Diriez-vous qu'il y a aujourd'hui une sorte de désir d'autorité, même de pouvoir autoritaire, de la part des jeunes, chez les jeunes en fait, dans nos sociétés au sens très large, chez les plus jeunes?
Oui, d'ailleurs en Grande-Bretagne, les petits partis d'extrême droite qui ont commencé à émerger au début des années 70, qui étaient vraiment extrêmes, avait un électorat, une militance dont la majorité provenait de la classe ouvrière qui possède une tradition de progressisme, mais dont une partie des membres est aussi très attachée à des valeurs masculinistes, à des valeurs d'autorité, à des valeurs de hiérarchie. Et puis aussi, il y a une, comment dire, un ethnocentrisme qui était le moteur de la manifestation.
Jean-Yves Camus, vous êtes politologue et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Dans un petit instant, on remet le monde à l'endroit et c'est grâce à vous, Louise Baudet.
Et je vous explique pourquoi les pays du Golfe n'ont plus du tout confiance dans leur allié américain.
Allez, ce sera juste après ça. Make it all about me. I'll make it all about you. Girl, you must have lost your mind, thinking you will find a flame with someone new. Ooh. Oh, make it all about me. You won't find love like this. You can search high and low, but you Ngonda, All About Me sur France Inter, c'est dans la playlist d'Inter et choisi par Djoubaka. Louise Baudet remet le monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Louise, pourquoi la confiance est-elle rompue entre Trump et les pays du Golfe ?
Oui, il semble loin, cet immense tapis violet, fastueusement déroulé sous les pieds de Donald Trump. Air Force One, escorté par des avions de chasse saoudiens, le faste du Palais Royal avec ses marbres, ses dorures et ses lustres gigantesques. C'était à Riyad, il y a tout juste 4 mois, accueil sur mesure, à la hauteur de la bromance entre le président américain et le prince héritier saoudien. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour cet homme incroyable, lance Donald Trump à la tribune, avant de plaider pour un Moyen-Orient pacifié, discours pragmatique et multipolaire, loin des ingérences américaines d'hier, en Irak ou en Afghanistan. Un tournant, dit-on alors ? Eh bien, le tournant a tourné court. Donald Trump a entre-temps ordonné des frappes sur les sites nucléaires iraniens et il n'a pas su ou pas voulu retenir le bras d'Israël, qui a frappé la semaine dernière des dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar, attaque inédite sur le territoire d'un pays médiateur, allié majeur des États-Unis.
Et pour le Qatar, donc, le réveil est brutal.
Oui, le pays du Golfe abrite l'une des plus grandes bases militaires américaines au monde et il se sentait protégé. Lui qui, il y a 4 mois, offrait à Trump un gros Boeing de luxe à 400 millions de dollars. Sauf que l'ami américain n'a pas empêché la frappe israélienne sur Doha. Cette frappe a fâché Donald Trump, c'est vrai, mais sans rien changer au soutien indéfectible des États-Unis à Israël, le secrétaire d'État américain Marco Rubio vient de le rappeler depuis Jérusalem, à quelques jours de la conférence de l'ONU et de la reconnaissance annoncée de l'État de Palestine par plusieurs pays, dont la France. Israël et les États-Unis sont plus que jamais main dans la main. Et cela inquiète les pays du Golfe réunis à Doha aujourd'hui pour un sommet arabo-islamique exceptionnel. 50 pays représentés, les désaccords politiques sous le tapis et un message commun. Israël mine les perspectives de paix et de coexistence pacifique dans la région.
Alors sur quoi il peut aboutir concrètement ce sommet, au-delà donc du déclaratif ?
Eh bien les monarchies du Golfe peuvent prendre des mesures de rétorsion commerciale vis-à-vis d'Israël, mais elles ne vont certainement pas s'engager militairement. Leur système d'alliance et de sécurité militaire est entièrement indexé sur les États-Unis, c'est d'ailleurs le nœud du problème. 40 000 soldats américains sont déployés dans la région et ils sont majoritairement stationnés dans les pétromonarchies du Golfe. Mais ces pays pourraient justement chercher à diversifier leurs alliances en se tournant vers la Chine ou la Russie. Et puis surtout, ils pourraient rompre avec la logique que tente de mettre en œuvre Donald Trump, l'affaiblissement de l'Iran et la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes.
Et cette normalisation, Louise, c'est le grand rêve de Donald Trump.
Oui, il présente comme un succès personnel la signature il y a tout juste 5 ans des accords d'Abraham, accords qui ont scellé la reconnaissance de l'État d'Israël par les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, puis le Maroc et le Soudan. Donald Trump espérait amplifier cette dynamique, c'est raté. La guerre à Gaza empêche toute reconnaissance de l'État hébreu par l'Arabie Saoudite notamment. Et le grand rêve de paix au Proche-Orient, le Nobel de la paix à la clé, ce grand rêve s'éloigne pour le président américain.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage est en Corée du Sud ce soir, qui, comme tous les pays du monde en ce mois de septembre, voit ses enfants retourner à l'école. Ben justement, pas comme dans tous les pays du monde. En Corée du Sud, certaines écoles n'ouvriront plus jamais faute d'enfants. C'est le pays au plus faible taux de natalité au monde, 0,7 enfants par femme. Les écoles ferment donc les unes après les autres. Dans certains établissements, les élèves se comptent sur les doigts d'une seule main. Et le reste, c'est Célio Fioretti qui raconte.
Une hécatombe bien visible dans les campagnes coréennes où les routes sont bordées d'écoles ayant déjà fermé. En 2025, 49 établissements scolaires ont fermé leurs portes après le départ de leurs derniers élèves. Nous rejoignons l'école primaire de Samjang au bord de la fermeture où nous attend Chun Jong-moon, l'un des derniers instituteurs de l'école. Alors c'est surprenant, le bâtiment est très grand, il y a plein de salles de classe, on pourrait facilement avoir une centaine d'élèves ici. Mais il n'y a personne dans les couloirs. Où sont-ils passés ?
Regardez cette photo qu'on a faite il y a plus de 10 ans. Il y avait 60 élèves ici. L'année dernière, seulement 10. Et cette année, il n'en reste plus que 5. Tous du village ou de ceux d'à côté. Depuis quelques années, nous n'avons pas de nouvelles inscriptions. Les enfants ici sont les derniers enfants.
5 élèves, pas de nouvelles inscriptions. Qu'est-ce que l'école va devenir dans les prochaines années ?
C'est la question qu'on se pose. La loi coréenne oblige chaque commune à avoir une école primaire. Donc le bâtiment restera dans tous les cas. Je pense que c'est une bonne chose. Détruire l'école, c'est tuer le village. Personne ne voudra revenir ici s'il n'y a pas d'école. Mais en attendant de nouveaux élèves, l'école peut être utilisée pour autre chose. On a un grand terrain, une rivière à côté. Ça peut faire un camping ou un gîte pour les randonneurs.
D'ici là, l'école continuera de faire cours pour les 5 derniers élèves du village. Nous les rejoignons justement à l'heure de la récréation. 5 garçons de 8 à 13 ans, comment c'est d'être si peu dans une école ?
C'est un peu le bazar. On est tous séparés dans des classes différentes en fonction de notre niveau, un par classe.
Mais on peut quand même jouer ensemble, on est tous copains. Et il y a les cours d'art et de sport que l'on a en commun.
Et au village, on ne s'ennuie pas trop ?
Non, ça va. On va à la pêche ensemble à la sortie de l'école. On joue au foot aussi. Même si on n'a pas le même âge, on joue ensemble dans le village.
Et toi, Ji-hoon, tu as 13 ans. L'année prochaine, tu devras aller au collège, loin d'ici. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu es content ?
Non, pas vraiment. Ici, c'est bien. Tout le monde est gentil dans le village. J'ai pas envie de partir loin en ville.
Et si l'école ferme, qu'est-ce que vous en pensez, les autres ?
Ça serait un désastre. J'aimerais que l'école continue d'exister. On a grandi ici. On ne veut pas aller ailleurs.
Oui, et puis s'il n'y a pas de nouveaux élèves, on va s'ennuyer. Il n'y aura plus personne avec qui jouer. Il faut de nouveaux élèves.
Allez, je vous laisse repartir en cours. Votre professeur vous attend. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la randonnée.
Quand on marche sur les sentiers, on met des chaussures montantes, car il y a des serpents. Il faut faire attention.
Alors ça, c'est un genre de cours qu'on ne voit pas ailleurs. C'est une spécificité de l'école?
Comme il n'y a que 5 élèves, nous avons beaucoup de budget sortie scolaire. Nous en organisons une par mois. Dans les cours aussi, on peut accompagner individuellement chaque élève, s'adapter à leurs besoins sans qu'ils stressent d'être en compétition avec d'autres. On espère que ce cadre unique, cet accompagnement des élèves, peut attirer des parents qui souhaitent quitter les écoles surchargées des centres-villes.
Attirer de nouvelles familles venues des villes, c'est tout l'enjeu des campagnes qui tentent de survivre face au déclin de la population coréenne. Malgré les différents plans du gouvernement pour relancer la natalité et l'installation dans les campagnes depuis des dizaines d'années, Séoul n'a toujours pas réussi à résoudre son défi démographique.
C'est Lio Fioretti pour le reportage. Merci beaucoup et à très vite. La suite, c'est ce que Guillaume Oda a déniché sous les radars.
Et l'histoire s'est créée en Syrie, les tout premiers pas timides vers un semblant de démocratie. On reste prudent.
Et la BO du Monde, comme tous les lundis, avec Cyril Sauvageau.
Les 10 ans de Bongo Joe, un label qui ne connaît pas les frontières.
Allez, à tout de suite, les amis. On reste un tout petit peu en Corée avec cette reprise de Sound of Silence par Noëlla, qui est coréano-norvégienne, qui a grandi à Seattle.
Ça, c'est pas mal.
Ça
elle
fait
est
du mélange.
Américaine.
Voilà, c'est bien.
Darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, to my collar, to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall, tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Eh bien, c'est très beau, dites-moi. Elle s'appelle Noëlla, ça date de 2014, cette reprise. Elle est sous les radars, c'est Guillaume Oda.
man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa.
La voix de cet homme, c'est celle de Peter Gabriel, qui est en concert. Guillaume, qui rend hommage à Steve Biko, militant anti-apartheid, évidemment mort à Pretoria dans un hôpital pénitentiaire.
Oui, Biko, Biko's, titre planétaire que tout le monde connaît, une chanson composée en 1980 en hommage, raconte ici le chanteur britannique, à un homme emprisonné, battu et torturé par la police blanche sud-africaine. C'était en 1977, en plein apartheid. Près d'un demi-siècle après sa mort, l'ombre de Steve Biko plane toujours et encore sur ce pays. Son passé et ses fantômes ségrégationnistes. Le parquet central a décidé de rouvrir une enquête sur le décès dans des conditions troubles, non officiellement élucidées, de cette figure majeure de la résistance noire. C'est d'ailleurs la troisième fois dans l'histoire sud-africaine que la justice se penche sur le cas de Steve Biko. La version retenue a toujours parlé d'un banal accident contre un mur. Personne n'y a jamais cru. Il avait été passé à tabac, mais aucun policier n'avait été inquiété. Pretoria tente de refermer une plaie restée ouverte avec ce dossier et d'autres par ailleurs, car on sait bien qu'il n'y aura jamais de réconciliation possible en Afrique du Sud sans vérité. Reste à savoir si 48 ans, presque jour pour jour après la mort de Steven Biko, les coupables des policiers seront enfin nommés.
Jour de vote en Syrie, première élection depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier.
Ça commence aujourd'hui et ça va durer une semaine, nous annonce ce présentateur télé, mais je vais tout de suite faire tomber le suspense. Il s'agit d'une élection sans électeurs. Voilà. Un curieux scénario où le gouvernement d'Ahmad al-Shara encadre la composition de la future Assemblée au pouvoir extrêmement limité. En clair, les parlementaires sont nommés, 70 par l'actuel président intérimaire et les 140 autres par les 14 gouvernorats du pays, tout cela obéissant à un équilibre très fragile entre les différentes communautés, les sunnites, les alaouites, les chrétiens, sachant que les Kurdes et les druzes pourraient être écartés. Bref, ça n'a rien d'un exercice populaire. C'est un balbutiement de démocratie, mais ça vaut toujours mieux que la dictature de Bachar el-Assad. Et en soi, c'est déjà un événement historique, le début, espérons-le, d'un long processus démocratique dans un pays instable et composite, où les communautés sont à vif et où les heurts entre celles-ci peuvent être extrêmement sanglants. On l'a vu ces derniers mois.
Et puis Guillaume, à la frontière de la Guyane française et du Brésil, deux associations se mobilisent contre les violences faites aux femmes.
Et elles font des miracles, ces deux associations, une brésilienne et une française. Même s'il s'agit d'une toute petite, d'une micro-initiative, elle pourrait changer la vie de centaines de femmes sur place et peut-être plus à l'avenir, à Oiapoque, précisément, petite municipalité tout au nord du Brésil. De l'autre côté du fleuve, il y a la Guyane française. Et bien, ce lundi, un premier centre d'accueil d'urgence ouvre ses portes aux femmes violentées au moment même où l'on se parle, à 7200 km de chez nous. Eh bien, une dizaine d'entre elles, de ces femmes, sont en train en ce moment de découvrir ce sanctuaire où elles pourront bénéficier d'un accompagnement social, juridique et psychologique. Alors pourquoi c'est important ? D'abord parce que le Brésil est l'un des pays les plus dangereux pour les femmes. Il y a un féminicide toutes les 7 heures là-bas et ces violences, évidemment, elles existent tout autant en Guyane française. Or, dans cette région-là, il fallait parfois voyager des heures, sinon des jours en pirogue pour trouver refuge dans un lieu protecteur. Cette maison des femmes, elle a désormais vocation à s'agrandir et à faire des émules des deux côtés du fleuve.
Merci beaucoup Guillaume Oda et vous reviendrez demain. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique que fait la planète en tournant. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et vous nous embarquez ce soir, Cyril, pour un drôle de voyage à travers le monde. C'est le 10e anniversaire d'un label musical pas comme les autres, les disques Bongojo.
Bongojo.
10 ans d'exploitation de la Suisse à la Turquie, en passant par le Maghreb.
Et avant de devenir l'un des meilleurs labels musicaux du moment, Bongojo était d'abord un disquaire, une boutique de vinyle basée à Genève, tout près des bords du lac Léman. Il y a 10 ans, le fondateur du magasin, Cyril Yeterian, a voulu trouver une autre façon, en quelque sorte, de partager ses coups de cœur. Et dès les premières références, l'idée est d'enjamber les frontières pour défendre les projets les plus exotiques, les rencontres les plus improbables. On lui doit notamment la découverte d'une nouvelle génération d'artistes d'origine turque. Le groupe groupe Altingun, basé à Amsterdam, des enfants de la diaspora qui redécouvrent à distance la pop psychédélique telle qu'on la jouait à Istanbul dans les années 60-70. Le label Bongo Joe est pour beaucoup dans le succès de cette nouvelle vague turque, puisqu'il héberge aussi la chanteuse Derya Yildirim, on a déjà eu l'occasion de parler d'elle ici dans la BO du Monde, ou encore l'électro-rock stambouliote du groupe Lalalar. Akşamdan kalmış fuşta Çivi sökerdi çiviyi ama Tek forvet kalmış zulamda Allah
Et le catalogue, Cyril, ne se limite pas loin de là à la Turquie.
C'est même devenu une marque de fabrique de Bongo Joe, l'art de surprendre et d'aller explorer tous les recoins de la planète musicale, en Indonésie, en Azerbaïdjan, en Argentine ou encore en Colombie, avec les Meridian Brothers. C'est le projet d'Eblis Alvarez, un musicien et producteur de Bogota. Imaginez une sorte de Manu Chao avec les doigts dans la prise.
Mi pescado alado Voy a chuzar mi celular
Quelle que soit l'origine géographique, on remarque une prédilection pour le bricolage et pour les sonorités vintage. Bongo Joe, c'est du brut, de l'authentique, tout sauf de la musique formatée ou commerciale. Et ce n'est pas un hasard si le label a choisi ce nom, Bongo Joe. C'est le pseudo d'un musicien américain, Joe Coleman, un percussionniste de rue qui a toujours refusé de mener une carrière conventionnelle. Il préférait se produire dans la rue en tapant sur des tonneaux, sur des bidons. Son seul et unique album de 1968 est une œuvre culte par excellence, un disque de chevet pour les créateurs du label.
Et d'ailleurs, l'autre spécialité du label Bongo Joe, Cyril, ce sont des rééditions de pépites oubliées.
Et là aussi, le spectre est large, que ce soit des musiques du Maghreb, le Raï, le Shaabi, de la chanson réunionnaise avec Alain Peters, trop tôt disparu. Bongo Joe se spécialise dans les disques rares et précieux. Exemple avec ce groupe de rock franco-algérien, les Abranis. Il rêvait des Stones et de Jimi Hendrix dans la France des années 70. Quatre jeunes d'origine kabyle montent ce groupe de rock aux sonorités orientales, les Abranis. Tombés dans l'oubli, ils méritent pourtant d'être redécouverts un demi-siècle plus tard. Et c'est la mission que s'est fixée le label de Genève. Toutes ces pépites qu'on vient d'entendre, et il y en a beaucoup d'autres, vous les retrouverez sur cette compilation anniversaire de Bongo Joe, tout juste paru 2015-2025. 10 Years of Sonic Exploration. 10 ans d'exploration. Sonore. I suppose I see that we what I really want to be. I've drawn to the creek where everyone wants Cyril Sauvageau, merci beaucoup. Ça y est, vous avez déjà pris la compilation.
Ouais, je vous la rendrai pas. En tout cas, la pochette est très sympa. Merci beaucoup.